Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la séroïde lipofuscinose neuronale de type 2, ou CLN2. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Gaëtan Lesca. Professeur Lesca, bonjour.
Bonjour.
Professeur Lesca, vous êtes médecin généticien, professeur des universités et praticien hospitalier au sein du service de génétique de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon. Et vous êtes également membre du centre de référence des épilepsies rares sous l'égide de la filière déficience. Alors, professeur Lesca, pour débuter notre entretien, qu'en pensez à une CLN et plus particulièrement à une CLN2?
Alors, c'est une question importante parce que c'est finalement l'enjeu aujourd'hui, il est surtout à ce niveau-là. On verra peut-être tout à l'heure que sur d'autres points, les choses sont maintenant un peu plus simples. Quand est-ce qu'on pense à une CLN? Les séroïdes lipofuscinoses sont des maladies dégénératives du cerveau qui se manifestent à des âges variables, donc ça peut être des nouveau-nés, des enfants, mais aussi parfois des adultes. Et on doit y penser lorsqu'il y a effectivement une dégradation neurologique qui apparaît chez un patient, associée souvent à une épilepsie, parfois à d'autres atteintes. La CLN2 est un peu particulière parce qu'elle se manifeste de façon un peu plus homogène sur le plan clinique, comme vous l'avez peut-être vu lors des épisodes précédents. Elle se manifeste souvent par une épilepsie myoclonique et une stagnation développement psychomoteur et ensuite une régression. Donc, il faut y penser lorsque les patients présentent ce type d'épilepsie débutante avec des troubles cognitifs même modérés. La difficulté, c'est d'y penser précocement, d'y penser au tout début de la maladie. En fait, c'est ça qui est le plus difficile.
Et devant ces situations, comment confirmer le diagnostic de CLN et de CLN2?
Alors, les choses ont considérablement changé ces dernières années, de façon, on va dire, positive. Il y a quelques années, c'était très compliqué. Il fallait faire des biopsies cutanées, il fallait attendre longtemps. Les gènes étaient testés un par un, c'était très compliqué. Les séroïdes lipofuscinoses, c'est un ensemble de maladies qui comporte environ 13 gènes, qui donnent des maladies semblables, mais ce sont des gènes différents. Et aujourd'hui, ces gènes peuvent être testés dans des laboratoires sous forme de panel, tous testés de façon simultanée ou bien sous forme de séquençage d'exomes. Et donc, au niveau génétique, les choses sont un peu plus simples. Certains de ces gènes fabriquent une enzyme pour laquelle on peut faire un dosage, et c'est le cas de la CLN2 en particulier. Donc, le diagnostic de CLN2, il doit être fait de deux façons différentes. D'une part, on peut faire un dosage spécifique de l'activité enzymatique directement. Si on y pense, ça veut dire que ça implique d'avoir évoqué le diagnostic cliniquement. Et ce dosage peut être fait dans plusieurs CHU. Et ensuite, si le diagnostic est confirmé, il sera ensuite validé sur le plan génétique. L'autre façon de faire, c'est de faire directement l'étude génétique, soit parce qu'on a les outils pour le faire, et on peut faire le diagnostic génétique en premier et le diagnostic enzymatique en second. C'est aussi possible de faire dans ce sens-là. Soit parce qu'on n'a pas forcément évoqué justement une CLN2. Et on peut faire le diagnostic de façon un peu plus large, c'est-à-dire qu'on est devant un patient qui présente une maladie neurodégénérative à peu près évidente, pour lequel il faut chercher un certain nombre de causes. Et on peut utiliser des outils génétiques qui comportent ce gène-là. Mais dans les deux cas, de toute façon, la bonne façon de le confirmer, c'est au final d'avoir un diagnostic génétique avec la présence d'une mutation homozygote ou de deux mutations hétérozygotes composites, et d'avoir également un dosage d'activité enzymatique qui est anormal.
Et justement, au niveau des mutations, quelles sont les mutations qui sont mises en évidence ?
Chez les patients, on s'attend à trouver soit deux mutations différentes, soit une mutation à l'état homozygote. Ce cas de figure se produit quand les parents sont apparentés, ce qui est fréquemment le cas dans le cas de maladies rares comme la séroïde lipofuscinose de type 2 et dans les autres CLN aussi, ou bien lorsque on est en présence de variants qui ont une certaine fréquence dans des populations. Donc, pour avoir un diagnostic confirmatif, il faut avoir un variant pathogène, une mutation sur chacun des allèles. Ça, c'est indispensable. Et effectivement, on peut retrouver des mutations soit très rares, qui sont parfois identifiées que dans une famille, des mutations, ce qu'on appelle des mutations privées, mais il a été montré par différents travaux que certaines de ces mutations avaient une certaine fréquence dans différentes populations. Donc il y a, par exemple, dans une population d'origine française, il y a quelques variants qui sont un peu fréquents, puis tous les autres sont très rares, et ce n'est pas forcément les mêmes qu'on retrouve, par exemple, en Afrique du Nord, ou bien en Turquie, ou évidemment encore moins en Asie du Sud-Est. Donc on a quelques variants fréquents, et puis des variants très rares. Mais ce qu'on doit avoir au final, c'est deux variants pour lesquels on a des arguments pour penser qu'ils sont pathogènes et qu'ils sont responsables de la maladie. Et parfois, ce n'est pas forcément simple, mais ce qui aide bien, c'est effectivement d'avoir également l'activité enzymatique qui permet de confirmer l'homogénéité du diagnostic.
Et est-ce que le panel de gènes impliqué dans la CLN est intégré dans toute analyse génétique demandée pour une épilepsie myoclonique ?
Alors, c'est effectivement une bonne question. Alors, lorsqu'on a une suspicion d'épilepsie myoclonique, on peut faire le diagnostic de plusieurs façons, soit en demandant effectivement une étude spécifique des gènes de séroïdopofuscinose. Donc, il y a plusieurs laboratoires qui travaillent spécifiquement là-dessus. Ou bien on peut avoir demandé un test spécifique pour les épilepsies monogéniques. Donc là, nous avons un panel pour les épilepsies monogéniques qui comporte environ 150 gènes, qui est un panel qui est appliqué dans différents centres en France. Et ce panel comporte le gène de la CLN2 uniquement, parce que la CLN2 a cette particularité, évidemment, d'être une maladie qui peut être traitée. Donc, c'est un diagnostic qu'on doit faire de façon systématique. On doit absolument pas passer à côté. Mais tous les gènes CLN ne sont pas forcément dans les panels d'épilepsie. Donc, le clinicien doit être au courant et demander des outils en fonction du diagnostic. Et en particulier, il y a d'autres diagnostics, d'autres formes d'épilepsie myoclonique qui nécessitent des tests spécifiques. Je ne veux pas donner plus de précisions, mais pour lesquels on est obligé d'y penser vraiment.
Alors, on arrive à la fin de notre entretien, professeur Lesca. Pour conclure, lorsqu'une mutation est détectée, quels sont les conseils génétiques qu'on peut proposer aux patients ou aux familles de patients ?
Eh bien, lorsqu'on a confirmé le diagnostic, ça veut dire qu'on a effectivement soit une mutation à l'état homozygote, soit deux mutations et un test enzymatique qui va dans le même sens. Eh bien, dans ce cas-là, il y a effectivement un conseil génétique qui peut être proposé à la famille, qui comporte essentiellement des informations concernant le risque de récurrence pour la fratrie, soit pour des futurs enfants si le couple souhaite encore avoir des enfants, soit parfois malheureusement pour des enfants qui sont déjà nés et qui sont plus petits que le cas index et qui peuvent éventuellement être atteints quelques mois après le diagnostic. Donc ça, c'est effectivement une situation délicate qui peut se poser. Si jamais le couple souhaite avoir un autre enfant, là, il y a une indication possible de diagnostic prénatal ou du diagnostic préimplantatoire, donc évidemment pour une future grossesse. Et les couples peuvent demander ces options. Il y a effectivement, selon le contexte familial, culturel, ce sont des options qui peuvent être souhaitées ou pas. Ensuite, une fois qu'on a fait ce conseil génétique pour la fratrie, il y a évidemment le conseil génétique à proposer pour les autres membres de la famille, les autres branches de la famille. Et le risque d'avoir une récurrence dans la famille dépendra principalement de la constitution de la famille, c'est-à-dire s'il existe des unions consanguines, puisque les unions consanguines, dans le cas de maladies autosomiques récessives très rares, vont augmenter de façon très importante le risque d'atteinte. Donc, dans ce cas-là, on va proposer un conseil génétique, on va dire, de façon appuyée pour tous les couples qui présentent ce type d'union, parce qu'eux, ils ont un risque potentiellement élevé. Et lorsqu'on n'est pas dans ce cas de figure, si on n'est pas dans une population dans laquelle la CLN2 est particulièrement représentée, le risque de récurrence, si les conjoints ne sont pas apparentés aux personnes de la famille, le risque sera très faible. Donc on peut dire que dans ce cas de figure, on a un risque très faible. Dans le cas inverse, lorsqu'il existe des unions consanguines, on a un risque très élevé.
Eh bien, merci mille fois, professeur Lesca, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la séroïde lipofuscinose neuronale de type 2 ou CLN2. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.